vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Renaissance, avec ou sans S. Alors, Philippe Frétinier, bien sûr, vous avez la dernière fois introduit la question en précisant qu'on ne pouvait pas parler de la Renaissance, mais qu'il fallait parler des Renaissances, raison pour laquelle il y a cette orthographe à l'émission que les auditeurs peuvent aller vérifier sur le site de Radio Grand Ciel. Donc vous aviez un peu posé le problème lors de la dernière émission. Aujourd'hui, vous allez nous parler de sans doute, puisqu'il faut compléter cette introduction par ce qui a amené justement ce qu'on a appelé justement ou injustement la Renaissance, et vous allez nous expliquer que ça vient de loin et vous allez revenir donc historiquement sur des périodes bien antérieures à ce qu'on a communément l'habitude de dénommer la Renaissance. Je crois que vous allez même remonter jusqu'au 12e, 13e siècle, voire peut-être même des incursions plus anciennes que ça, mais je vous laisse nous expliquer ça un peu plus en détail.
Oui, alors on peut d'autant mieux mettre un S à Renaissance que si on prend la Renaissance à laquelle on pense le plus souvent, c'est-à-dire la Renaissance italienne, d'abord on va découvrir qu'il y a d'autres Renaissances que la Renaissance italienne.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement historiquement à resituer bien en amont, mais c'est également une question géographique.
Absolument.
Et ça me fait penser à votre méthode, qui est celle que vous aviez utilisée pour nous expliquer ce qu'était ou n'était pas le baroque. Vous avez aussi signalé qu'il y avait bien sûr des dimensions historiques, qu'il y avait bien sûr cette notion à nuancer, mais qu'il y avait aussi des dimensions géographiques et des circulations extrêmement importantes.
Voilà. Et puis, à l'intérieur même de cette Renaissance italienne, que moi je fais commencer, je vais le préciser dans un instant, avec l'autre volet de la problématique Renaissance au pluriel, je fais commencer la Renaissance dans le courant du XIVe siècle, ce qui est habituellement, on pense plutôt 15e, 16e.
Bien sûr.
Alors, à l'intérieur de ça, on peut dire qu'il y a différents moments qui prennent d'ailleurs différentes formes. Par exemple, et c'est très difficile de mettre chacune de ces formes dans une case qui serait trop réductrice, mais on peut dire que par exemple, à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, si on prend la peinture par exemple, on voit qu'il y a un certain nombre de figures qui ne sont pas des figures, qui ne sont pas des géants entre guillemets, mais des peintres importants. Au cours des émissions, j'en parlerai bien sûr. Et puis il y a une autre période qui est celle du XVIe siècle avec les géants. André Chastel a fait un livre qui fait partie de la collection de l'univers des formes, où cette période-là, il l'a intitulé le temps des génies. C'est-à-dire que évidemment, on pense tout de suite à Leonardo, à Raphaël et à Michel-Ange.
Hein. Bien sûr, le triptyque. Voilà.
Mais on n'a pas ça. On n'a pas ça au XIVe, XVe siècle. Mmh. Hein, donc déjà, c'est multiforme. Et puis, je vais en profiter pour balayer les idées reçues. Vous savez que j'adore faire ça. On situe toujours la Renaissance comme étant, on nous a un petit peu inculqué ça à l'école par des professeurs peut-être pas suffisamment formés. On nous parle de la redécouverte du monde antique.
Oui, bien sûr, c'est le sens même qu'on donne au terme de Renaissance, voilà. D'ailleurs.
Alors que le lien n'a jamais été totalement rompu avec la période antique. Alors c'est fait, vous savez que j'aime beaucoup parler aussi de continuité, de discontinuité, les deux coexistants. Alors il y a une forme de continuité parce que le fil n'est jamais rompu avec la culture gréco-romaine. Et puis des discontinuités, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des hauts et des bas. Hein. Et il y a deux choses en histoire qui interviennent de façon très importante pour modifier le cours des choses. C'est soit des révolutions, par exemple Copernic en astronomie, soit au contraire des séries d'inflexions dues à différentes personnalités. Et on peut dire que entre le monde gréco-romain et ce que l'on appelle la Renaissance, que la plupart du temps on fait commencer au XVe siècle, nous avons plutôt des séries d'inflexions. qui sont le fait d'un certain nombre d'auteurs, mais ces auteurs qui sont au contact de la culture gréco-romaine, ils ne sont pas sui generis. Ils se rattachent à des moments de l'histoire où le lien avec la période gréco-romaine est plus important qu'à d'autres. On a toujours présenté l'effondrement de l'Empire romain comme étant un plongeon dans l'abîme du point de vue culturel. Ça n'est pas vrai.
Donc on peut situer aux alentours du 5e
C'est
siècle,
ça.
c'est ce qu'on appelle aussi la chute de
Voilà.
l'Empire romain.
Je précise tout ça pour justement lutter contre cette vision qu'on a de la Renaissance, de la culture antique à la Renaissance. Hein.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que ce qu'on a qualifié de Renaissance, on l'a qualifié de cette manière-là parce que simplement, entre le 5e siècle en gros et le 15e siècle, d'abord on a peu de documents. Sans doute. Et puis, c'est cette espèce de dizaine de siècles qualifiés d'obscurantistes, parce que c'est un petit peu le qualificatif que justement on nous a enseigné aussi, comme vous le disiez tout à l'heure. Cette espèce d'obscurantisme est une idée fausse, certes, mais étayée par le fait qu'on a pendant très longtemps eu peu de traces, sans doute, non?
Alors, il y a une partie de vrai dans ce que vous dites. Là où c'est pas si vrai que ça, c'est que, en fait, nous avons un certain nombre de documents, d'abord des œuvres, je vais y venir dans un instant, qui pour moi sont justement les prémices de ce que va devenir la Renaissance, parce que les textes eux-mêmes n'ont pas été vraiment perdus. Il ne faut pas oublier que les premiers barbares, entre guillemets, qui descendent sur Rome, ce sont en fait des barbares romanisés et dans certains cas même christianisés. Hein. Donc, alors c'est pas tout à fait le même christianisme qu'à Rome parce que ils sont plutôt nestoriens. Enfin bon, c'est pas le lieu de rentrer dans ces nuances. Mais donc, ce sont des barbares qui sont romanisés. Donc déjà, vous voyez que l'idée du fossé culturel en prend un coup. Et puis, il y a la permanence de l'Empire romain d'Orient, en l'occurrence Byzance, qui va perdurer, ne l'oublions pas, jusqu'en 1453. La date est facile à retenir parce qu'elle correspond aussi à d'autres événements importants, dont l'imprimerie. Il y a déjà le fait que Byzance va rester un conservatoire du patrimoine gréco-romain, d'autant plus que c'est vraiment cette idée de la nouvelle Rome qu'on va trouver d'ailleurs auparavant ici en Occident, je vais y revenir dans un instant aussi. Et donc, il y a des îlots de culture qui subsistent au milieu des îlots temporels et géographiques. Comment dire? Moi, je dirais pas justement une nuit, mais au milieu de périodes plus sombres. Très tôt, par exemple, en Angleterre au 7e siècle, nous avons un moine qui s'appelle Bède le Vénérable, que j'ai déjà cité parce qu'il nous concerne, nous Chartrains, puisqu'il. C'est ces commentaires qui ont inspiré un des plus beaux vitraux de la cathédrale, la parabole du bon samaritain. Bête le Vénérable, c'est un moine qui vit donc au 7e siècle en Northumbrie, c'est-à-dire cette partie de la côte nord-est de l'Angleterre. Il traduit les pères de l'Église, il traduit les œuvres latines et grecques des pères de l'Église. Donc nous avons déjà là quelqu'un au 7e siècle dont on a des traces qui pratique fort bien le grec et le latin au point de faire des traductions. Donc, Bède le Vénérable, il traduit donc les auteurs grecs et latins fort bien. On retrouve ça un siècle plus tard avec ce qu'on a qualifié de Renaissance, c'est-à-dire le 9e siècle avec le règne de Charlemagne qui s'entoure de lettrés. Les deux plus connus, ce sont Alcuin, qui, je le rappelle, est un évêque et qui est originaire d'Angleterre. La vie d'Alcuin est tout à fait typique de la circulation des idées des intellectuels au Moyen Âge. Charlemagne va le rencontrer près de Milan lorsque Charlemagne va descendre en Italie pour se faire sacrer. Il va suivre Charlemagne à la cour d'Aix-la-Chapelle. Et ensuite, il sera évêque de Tours. Donc, vous voyez, il y a une circulation des hommes et des idées. Et on va parler de Renaissance carolingienne.
Alors, on va revenir sur cette Renaissance carolingienne après une première pause musicale que vous allez nous présenter.
Alors pour inaugurer cette série sur la Renaissance, dans un premier temps, j'ai choisi de la musique de la Renaissance. Et donc nous allons écouter une danse de la Renaissance d'un auteur qui s'appelle Jacques Moderne, et ce sont Trois branles de Bourgogne.
Philippe Frétinier, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de la Renaissance carolingienne,
Oui.
c'est-à-dire que c'est une notion là qui, pour le compte, est un peu, non pas inconnue, mais assez peu connue quand même de l'histoire. On n'a pas l'habitude de parler de Renaissance pour l'Empire de Charlemagne, qui, c'est vrai, s'appelle quand même le Saint-Empire romain germanique.
Oui, absolument. J'en parle pour plusieurs raisons. D'abord, puisque ça correspond à l'intitulé de l'émission, Renaissance et Renaissance au pluriel.
Bien sûr.
Et ça montre bien que comment les choses se font graduellement, avec toujours cette notion de continuité, discontinuité que j'ai soulignée. La Renaissance carolingienne, c'est vraiment la première Renaissance dont on parle, au sens historique et culturel. Alors, c'est vrai qu'elle est moins connue. Il faut savoir que donc il y a une académie palatine à Aix. On a plein de détails parce que parmi les intellectuels qui entourent Charlemagne, dont Charlemagne s'entoure, pourrais-je dire, il y a donc Alcuin dont je viens de parler, mais il y a aussi Eginhard. Eginhard, il est particulièrement connu et important parce que c'est lui qui va être le biographe de Charlemagne, qui va commenter d'ailleurs à la manière des 12 Césars de Suétone. Et donc cette Académie palatine, qui ne s'appelle pas comme cela à l'époque, mais qui est un groupe, notamment sous l'impulsion d'Alcuin, chacun des participants prend le nom d'une figure éminente de l'Antiquité. Alors, pour Charlemagne, ça va être David, avec un double sens. David le roi, la puissance politique, mais David le poète, l'auteur des psaumes. Donc, le roi et le poète. Et puis, je ne vais pas faire toute la liste, mais pour prendre Alcuin, il va s'appeler Flaccus, qui est le cognomen d'Horace. Alors, le cognomen, qu'est-ce que c'est? C'est le surnom romain qu'on a ajouté en troisième partie au nom. Donc, il s'appelle Flaccus. Et Flaccus, c'est Horace. Hein? Donc, vous voyez qu'on est en plein dans l'Antiquité gréco-romaine, avec des lettrés qui connaissent un certain nombre de textes, qui lisent le latin, qui lisent le grec. Ça, c'est le 8e siècle. Et puis, il y a une autre renaissance, on en parle moins en termes de renaissance, mais c'est quand même une renaissance, qui est celle du 12e siècle. Et nous, Chartrains, on est quand même assez bien placés pour logiquement s'y intéresser, puisque c'est en plein dans l'époque des constructions de la cathédrale. Alors, c'est plutôt la cathédrale précédente, mais dont il reste une partie de la façade avec justement au portail royal des figures éminentes de l'Antiquité avec les arts libéraux. Et donc c'est un grand renouveau aussi de la culture gréco-romaine. On s'intéresse beaucoup à Aristote, ce qui va être quelque chose de clé dans l'époque médiévale, aussi bien du point de vue de la théologie que du point de vue de la philosophie. Et on va beaucoup s'inspirer d'Aristote, notamment pour la science. Vous vous souvenez que j'avais expliqué dans un autre cadre que la révolution galiléenne intervenait par rapport à une vision aristotélicienne de la science, qui était une vision où on raisonne par syllogisme pour tirer des conclusions de l'observation de la nature. C'est vraiment un grand moment. Alors, c'est nourri par différentes choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque renouveau, on élargit le focus sur l'Antiquité gréco-romaine. C'est-à-dire qu'on commence à lire de plus en plus d'auteurs qu'on découvre au fur et à mesure.
Donc hein? On redécouvre.
Qu'on redécouvre au fur et à mesure. Hein? Donc là, on découvre encore des auteurs, des dialogues supplémentaires de Platon, des œuvres d'Aristote. Et puis, ça continue. Alors là, c'est plutôt le fait d'individualité. Et là, on arrive à notre sujet qui est la Renaissance, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire, par exemple, Pétrarque, hein, qui est né en 1304 et mort en 1374, je donne des dates pour montrer qu'on est au XIVe siècle, hein, mais qui va voyager, retrouver les correspondances de Cicéron, vous voyez, donc on est au XIVe siècle, on n'est pas au XVIe siècle. La figure de Dante, qui 1265 Florence, 1321 à Ravenne, qui en 1293-1295 écrit la Vita Novella, qui est entièrement tournée à Béatrice Portinari, dont il est amoureux, une sorte justement d'amour courtois, voyez. C'est intéressant parce que c'est très tôt, et pourtant c'est déjà ce changement de regard sur le monde qu'on va attribuer à la Renaissance beaucoup plus tardivement, qui est le début de l'observation de soi-même, l'observation de l'homme. Dans la Vita Novella, Dante, tout en rendant hommage à l'objet de son amour, il s'observe aussi dans les sentiments qu'il a par rapport à son amour, vous voyez.
C'est presque de l'autofiction, quoi.
Voilà. Donc on peut parler déjà d'un premier humanisme, vous voyez, aussi bien chez Pétrarque que d'ailleurs, hein, aussi. Je pourrais évidemment parler de Boccace, hein, 1313-1374 Florence, hein, qui est l'un des créateurs de la littérature en prose italienne, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un tournant, parce qu'en même temps, bien que la science soit aristotélicienne, il y a un mouvement d'ouverture, de regard sur le monde et de vraiment d'analyse de la nature, comment la nature est faite. Vous savez, on parle beaucoup, et on a raison d'ailleurs, des ouvrages, des dessins de Vinci, hein, d'études de la nature, d'études détaillées, par exemple le dessin d'une aile d'oiseau, pour par la suite dessiner les ailes des anges. Mais en fait, ça commence avant, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, ce changement de regard sur l'homme, sur soi-même et sur la nature, il a lieu avant, il s'amorce avant. Évidemment, ça ne saute pas aux yeux, si je peux employer l'expression, parce que nous n'avons pas affaire à des ruptures à ce moment-là, hein. Nous avons des interruptions temporelles, mais pas de rupture culturelle, hein. Ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais commencer les prémices de la Renaissance bien avant, dès le XIVe siècle, avec donc ces trois figures dont je viens de parler. Et puis, dans la peinture, on a un exemple merveilleux, c'est Giotto, qui est un véritable tournant aussi dans l'histoire de la peinture. Parce que si on regarde par exemple les fresques de la basilique supérieure d'Assise où il est développé toute la vie de Saint François, on voit bien que c'est l'homme Saint François qui est au centre de toute cette histoire.
D'accord, eh bien, écoutez, on va faire une seconde pause musicale et on va revenir sur ces points-là très précisément juste après. Je vous laisse présenter cette deuxième pièce.
Alors, nous allons écouter une pièce de Léo Hassler, ce sont trois entrées et c'est toujours dans la lignée des danses de la Renaissance.
Thank you.
Frétinier, vous nous avez dit juste avant cette pause musicale que, en gros, on pouvait compter au moins trois renaissances avant la Renaissance, hein, celle du IXe siècle, la Renaissance carolingienne, puis une autre autour du XIe, XIIe siècle, et puis des prémices de la Renaissance telle qu'on la désigne aujourd'hui, encore autour du XIIIe, XIVe siècle, autour de grands auteurs de référence, évidemment, finalement, d'ailleurs, ces auteurs-là, on ne les place pas tellement, la plupart du temps, historiquement, on les pense un peu hors temps. Hein, je pense à Boccace, Dante...
C'est pour ça que je me suis permis de donner les dates pour nos auditeurs.
Vous avez bien fait. Et puis, vous nous disiez aussi que c'était le début d'une forme d'humanisme. Alors, humanisme qu'on a l'habitude d'accoler aux Lumières plutôt bien après, mais qui déjà transparaît là, un peu comme si, au fond, la créature commençait déjà un chemin d'émancipation, à se regarder elle-même et non pas à regarder uniquement vers le Créateur, quelque chose de ce temps-là, quoi.
Absolument, et c'est intéressant que vous parlez de chemin d'émancipation parce que c'est vraiment le cas, parce que quand on regarde l'histoire du christianisme, qui est évidemment un cadre majeur de ce qui se passe à ces moments-là, on peut observer que, on le voit d'ailleurs dans la différence dans la statuaire de l'art roman et la statuaire de l'époque gothique, les gens vont tout de suite comprendre, les gens qui nous écoutent. Dans la statuaire romane, nous avons beaucoup de monstres, de figures terrifiques, j'emploie terrifique à dessein, hein, parce que nous sommes vraiment dans une situation où l'homme est face au Dieu suprême, qui est un Dieu de plus ou moins vengeur, un Dieu de justice divine, qui donc est terrébrant. Hein. Le XIIIe siècle, on le voit d'ailleurs là aussi à la cathédrale de Chartres, mais dans toutes les cathédrales, c'est vraiment le siècle du Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait homme à travers le Christ. Mmh. Donc c'est un homme, c'est à la fois la Trinité, mais c'est un homme. Mmh. Et on le voit bien dans la statuaire gothique, parce que justement, c'est une statuaire qui s'incarne, qui s'apaise. On va aller jusqu'à des figures comme par exemple l'ange au sourire de Reims, ou la synagogue à Strasbourg, qui est absolument magnifique, qui selon moi d'ailleurs a été inspiré par Sainte Modeste, la statue qui est au portail nord de Chartres. Et on voit bien qu'il y a un apaisement, une humanité qui pénètre et qui se diffuse dans le christianisme à ce moment-là. Donc vous voyez qu'on est dans une grande cohérence finalement. Parce que bien sûr, vous connaissez ma méthode, j'essaye de regarder les conditions historiques, intellectuelles, géographiques, politique, économique qui concourt à tout cela, et on voit bien qu'il y a une convergence entre ce qui se passe dans le christianisme, ce premier regard de l'homme sur lui-même. Au fond, si j'avais pas trop peur de faire des comparaisons osées, mais ce que j'ai dit à propos de Dante avec la Vita Novelle, là, ça conduit tout droit à Montaigne. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y a aussi l'époque des grandes découvertes, il y a les voyages, hein, il y a la fameuse histoire de Marco Polo, mais il y en a d'autres. On découvre des épices, on découvre des horizons nouveaux, notamment avec l'Orient. Dans la science, il commence à se produire ce premier décalage qui est celui vraiment de l'observation de la nature. On veut rendre compte de toute la nature. Il y a l'œuvre de Vincent de Beauvais, un peu plus tardivement que le XIIIe siècle, qui s'appelle le Speculum Magis, hein, le miroir de la nature. Hein. On voit bien qu'il y a des prémices qui font qu'il ne faut pas être étonné de ce qui va arriver après. Alors pourquoi je dis il ne faut pas être étonné? Parce qu'il n'y a pas forcément un lien de causalité absolue. Il y a des choses qui préparent le terrain à la suite, par les évolutions qui sont induites, mais qui n'annoncent pas pour autant formellement ce qui va se passer.
Alors c'est un peu ce que vous avez fait dans cette émission aujourd'hui, préparer le terrain. Et on ne sait pas exactement encore ce que ça va annoncer. Ça sera pour les prochains épisodes. Merci beaucoup Philippe Frétinier. Puis pour conclure cette émission, une dernière pièce musicale que je vous laisse vous présenter.
Alors une danse polonaise et gaillarde d'un auteur qui s'appelle Christopher de Montius.
Merci Philippe Frétinier et à la prochaine émission.